Frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Nous pourrions chanter « Le Saint-Esprit est là ». Est-ce que vous le croyez? Oui. Il est au-dessus des barres que vous voyez. Mais mes frères et sœurs, c'est rien d'avoir un petit inconvénient, d'avoir devant nous des barres de fer. Pensez que dans le monde, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui se réunissent derrière des barreaux, qui sont persécutés. Alors, un petit effort sur le confort pour bénir Dieu en tout temps, en barreau ou sans barreau, je veux louer le Seigneur. Amen. Vous savez que ça donne une possibilité à l'Église de faire ses travaux. Ça va permettre à des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans l'Assemblée d'y venir, c'est-à-dire les ouvriers. Est-ce que vous croyez? Et si nous prions pour chaque ouvrier? Ouais, vous ne croyez pas beaucoup, allez. Mais moi, je vais vous faire part d'une expérience. Lorsque j'étais pasteur à Évreux, nous avions acheté un supermarché et il fallait peindre grand portail. Alors on a cherché un artisan parce qu'on voulait faire une belle porte. C'est normal. Il n'y a rien de plus beau que nous pouvons offrir au Seigneur que le meilleur. C'est ce que disait notre frère Christophe tout à l'heure. Alors on a trouvé un artisan peintre qui est venu peindre la porte, qui n'avait jamais mis les pieds dans les assemblées, et en peignant, il est rentré dans l'église qui était vide, il n'y avait personne, et quelque chose a parlé à son cœur, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Il est venu le dimanche, il s'est converti, sa femme s'est convertie, son fils s'est converti, l'autre fils s'est converti, la fille s'est convertie, et ça a commencé par de la peinture sur une porte. Alors je crois que s'il y a des travaux, Dieu est capable, mes frères et sœurs. Dieu est capable de toucher le cœur des ouvriers. Peut-être qu'il y en a un qui s'oppose, peut-être tous, mais peu importe, c'est un moyen d'évangélisation. Alors Seigneur, merci pour le chantier, merci pour les travaux, merci pour les âmes que tu vas sauver.
Amen.
Amen. Donc réjouissons-nous. Frères et sœurs, nous allons ouvrir un livre dans la Bible, le livre d'Ésaïe. Si ma mémoire est fidèle, la semaine dernière, nous avons remarqué quelque chose que Dieu fait chaque matin. Qu'est-ce que Dieu fait chaque matin? Ah, bravo! Chaque matin, il visite. Et l'Écriture nous dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites chaque matin? Eh bien, on va continuer, pour terminer, parce que j'ai pas eu le temps l'autre fois, par une autre chose que fait le Seigneur, non pas simplement chaque matin, mais chaque instant. Et comme ce matin, nous sommes dans un instant, la présence de Dieu, il va faire quelque chose. Vous le croyez? Alors, je vous invite à ouvrir Ésaïe, chapitre 27, verset 2. Nous lirons les versets 2 et 3. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Je l'arrose à chaque instant. De peur qu'on ne l'attaque. Et nuit et jour, je la garde et je dis avec vous,
amen.
Mes frères et sœurs, la vigne. C'est Israël, je le sais. Mais le Seigneur Jésus nous a dit que il est le vrai cep, le père est le vigneron, et nous sommes les... Très bien, vous connaissez tous. Et ce qui est formidable dans ce passage, c'est les promesses que Dieu nous fait. Regardez, j'aime ce mot qui est écrit ici, dans le verset 3, « Moi, l'Éternel. » Moi, l'Éternel. L'Église de Jésus-Christ n'est pas mon Église, c'est l'Église de Dieu. Elle appartient à Dieu, c'est lui qui est la tête, nous le savons. Moi, l'Éternel, qu'est-ce que je fais? Je suis le gardien. Mes frères et sœurs, est-ce que vous croyez, ce matin, que le Seigneur est le gardien de l'Église et de chacun d'entre nous. Bon, moi, l'Éternel, je suis le gardien. Et l'Écriture va nous dire qu'il est le gardien nuit et jour, je la garde. Vous me direz, mais enfin, monsieur le pasteur, je suis pardonné, alléluia. J'ai mon nom inscrit dans le livre de vie, amen. Je suis revêtu de la justice, amen. Je suis baptisé du Saint-Esprit. Je manifeste le don de prophétie, le don de parler en langue, le don des miracles. Enfin bref, je possède. Mais dans le fond, Saint-Esprit me garde. Moi, je me garde. Est-ce que j'ai besoin d'être gardé? Que tous ceux qui sont convertis, nés de nouveau, lèvent la main, s'il vous plaît. Est-ce qu'on va faire de l'évangélisation? Il y a beaucoup de mains qui ne se lèvent pas. Alors, il y a beaucoup de pécheurs ici. Nous sommes la vigne de Dieu. Vous êtes les sarments de Dieu. Je suis avec vous le sarment. Et le Seigneur dit, moi, je suis le gardien nuit et jour. Regardez bien. Nuit et jour, je vous garde. Et je vous arrose à chaque instant. La nuit, le jour, je garde et j'arrose. Si c'est vrai, ça doit se produire ce matin, à chaque instant. J'ai besoin d'être gardé, oui, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur nous dit, moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Voyez-vous, le Seigneur ne confie pas notre sécurité à des anges gardiens. Non, il dit, moi, l'Éternel, je garde. Dieu ne délaie à personne le soin de nous garder. Et ça, ça réjouit mon cœur. L'Éternel est mon gardien. Je suis entouré de grâce et de victoire. Mais si le Seigneur me dit, je suis ton gardien, c'est qu'il a une raison. Regardez la raison. Il a peur qu'on nous attaque. Verset 3. De peur qu'on ne l'attaque. Mes frères et sœurs, je vous dirai ce que vous savez tous. N'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités. Et pouvez-vous, frères et sœurs, mesurer cette parole? Dieu, dans son cœur, a une crainte. C'est que vous, moi, nous soyons attaqués. Il y a une crainte dans le cœur de Dieu, c'est que nous soyons attaqués. Nous qui lui appartenons. Alors il veille sur nous. Mes frères et sœurs, c'est impensable de penser que Dieu peut avoir peur. Il a peur qu'on soit attaqué parce qu'il connaît nos ennemis. Et nous en avons quelques-uns des ennemis qui sont là pour nous dessécher, pour nous réduire à néant. Satan rôde autour de nous avec des fleurs pour nous féliciter. Non, c'est pas ça. Comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Il cherche donc à nous dévorer, à nous cribler comme du froment, à nous brûler et à nous perdre. Et Dieu dit, je veille sur mon peuple nuit et jour et je l'arrose de peur que les ennemis le touchent. Cela veut dire que dans la grâce de Dieu, je ne crains rien, je suis gardé, protégé, entouré, fortifié. Amen. Si je lis attentivement ma Bible, je m'aperçois qu'il y a Satan qui... Mais il y a aussi un ennemi encore aussi terrible que lui, c'est moi-même. Mon cœur, mes passions, mon orgueil, mon égoïsme, mes sensibilités. Et ça aussi, c'est un ennemi qui nous réduit. Et la Bible dit que Dieu veille sur notre cœur. Ainsi, nous sommes appelés à veiller sur notre cœur plus que sur toute autre chose. Mais ce qui me rassure surtout, c'est qu'au-delà de moi, le Seigneur me surveille et garde mon cœur pour que je ne sois pas touché. L'Écriture nous dit que il y a autre chose qui est nos ennemis. Ce sont les mouches. Les mouches mortes corrompent le parfum du parfumeur. Et notre louange, c'est un parfum. Et mes frères et sœurs, la louange et l'adoration qui est un parfum a un risque d'être corrompue par des mouches mortes. Qu'est-ce que c'est qu'une mouche? C'est un insecte qui va partout, dans le beau, dans le mal, sur la vie et sur la mort. Et cette mouche, c'est l'image malheureusement, ça n'arrivera pas ici, de ces chrétiens qui vont un petit peu partout pour en ramasser. Oh, là-bas, c'est encore mieux. Là-bas, c'est encore mieux. Mais Dieu est ici. Dieu n'est pas enfermé dans les quatre murs. Il est là. Mes frères et sœurs, ça aussi, c'est un ennemi. La mouche. Et puis, il y a les petits renards qui sont en nous, les petites ruses, les petits pièges qui nous font penser que nous sommes tout à fait gentils. Nous avions un frère très très sympa qui était bien connu dans l'assemblée, toujours souriant, toujours aimant, toujours fortifiant. Et un jour, on dit à sa femme, c'est formidable. Je voudrais bien avoir un mari comme ça, toujours souriant. Le mien fait que de rouspéter. Toujours prêt à apporter de la joie. Eh oui. Et la femme dit, ah, seulement si vous le connaissiez. Parce que dès qu'il rentre à la maison le soir, il arrête de sourire, il est plus dans l'église. Mes frères et sœurs, ça aussi, ça nous fait rire, mais c'est grave. C'est d'hypocrisie. Et l'Écriture nous dit que Dieu veille parce qu'il a peur qu'un ennemi vienne nous prendre et nous enlever de cette grâce de Dieu et nous conduire à être desséchés. Alors, il y a trois raisons pour croire que ce matin, le Seigneur va nous arroser, c'est-à-dire va nous renouveler. Il a trois raisons. La première, mes frères et sœurs, c'est celle-ci. Si Dieu ne nous renouvelle pas chaque instant, on meurt. Soyez des jours sans boire et manger, vous allez me dire ce qui va se passer chez vous. Toute créature ne peut pas se passer d'éléments extérieurs. Je ne peux pas vivre par moi-même. J'ai besoin d'eau, j'ai besoin de pain. Et l'Écriture nous dit que Dieu, dans sa grâce, s'engage à pourvoir à tous nos besoins du matin au soir et même dans la nuit. L'Écriture nous dit que Dieu soutient tout chose par sa parole. Le monde, Dieu l'a dans la main. Ça pèse un poids, hein, avec toutes ces montagnes. Et moi, ma petite vie, il me dit, tu es dans ma main et nul ne te ravira de ma main. Oh, que ça fait du bien. Seigneur, tu me gardes dans ta main afin que personne ne me touche, afin que mes ennemis soient vaincus. Et ça va plus loin. Si je regarde attentivement ma Bible, je m'aperçois ceci, que pour Dieu, nous sommes des fleuves et pas des citernes. Pour Dieu. Jésus l'a dit, si quelqu'un vient à moi et qu'il boive, des marécages jailliront de... Non, des mares non plus. Des fleuves d'eau vive qui jailliront de temps en temps quand on sera bien excité. Non, qui jailliront jusqu'en vie éternelle, sans arrêt. Quand Dieu arrose, c'est sans arrêt. Parce qu'il veut que nous soyons par sa grâce vainqueur. Donc voyez-vous, il ne nous voit pas comme des citernes, il nous voit comme des fleuves. Et j'oserais dire, en regardant ma Bible, qu'il nous regarde non pas comme des soleils, parce qu'un seul est le soleil de justice, c'est Jésus, mais comme des rayons de soleil. Et si nous sommes une lampe, eh bien nous avons besoin d'être constamment renouvelés dans nos réserves pour pouvoir brûler. Rappelez-vous, les dix vierges sont des lampes, mais les lampes s'éteignent. Donc la lampe, elle a besoin d'être renouvelée tous les jours. Et puis, si je continue ma suite, je découvre que la brebis, elle ne peut vivre sans berger. Parce que son berger la protège et la nourrit. Oui, Seigneur, à chaque instant, de chaque jour, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure. Qu'est-ce que j'ai? Alors? Et? Oh, c'est vrai? Oui, c'est une nécessité, mes frères et sœurs, d'être arrosés par le Seigneur tous les jours et dans sa grâce, il veut le faire. Parce que si nous ne sommes pas arrosés par l'onction du Saint-Esprit, Et l'onction du Saint-Esprit, c'est pas une excitation de la chair, ça descend du ciel. On n'y peut rien, c'est Dieu qui le fait. Le jour de la Pentecôte, quand Dieu a décidé de remplir son peuple du Saint-Esprit, il s'attendait à tout, sauf à ça. Ils étaient assis, vous voyez, ils étaient assis. En principe, un juif prit debout. Il était assis, il se reposait. Il s'y attendait pas. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur, dans sa grâce, est descendu et il les a remplis du Saint-Esprit. Je me souviens qu'à Abidjan, où je conduisais un camp de jeunesse, à un certain moment, le matin, pendant le culte, il y a eu un silence. Le silence qui est venu comme ça. Le prédicateur, qui était moi-même, je me suis arrêté. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut? Je me suis arrêté. Les yeux de chacun étaient fixés. Chacun se regardait. Qu'est-ce qui se passe? Et d'un seul coup, mes frères et sœurs, d'un seul coup, on a vu comme un nuage blanc dans le haut de la tente descendre petit à petit sur les jeunes qui étaient là. Et un certain moment où ce espèce de nuage blanc ou de brouillard, je me rappelle plus bien, est arrivé sur les têtes, tous se sont mis à parler en langue. On n'y était pour rien, j'avais rien provoqué, le peuple avait rien provoqué, mais Dieu a décidé. Amen. Dieu a décidé de nous arroser ce matin, mes frères et sœurs. Et ça, nous ne pouvons rien, soyons soumis à sa voix. Et alors, par la grâce de Dieu, nous pourrons, par sa grâce, être pleinement vainqueurs. Car sans l'onction, on devient comme Balaam. Vous vous rappelez Balaam? Il était plus bête que son âne. Il était plus âne que l'ânesse, Balaam. Il n'avait pas l'onction, mais il avait le titre. Regardez Judas au début. Il a été avec les apôtres, chasser les démons, guérir les malades. Mais il n'a pas eu l'onction à un certain moment, quand le diable est rentré en lui. Regardez Démas, qui était avec les apôtres. Il a lâché. Et frères et sœurs, ce qui nous garde tous les jours, c'est d'être arrosés, fraîches rosées, descendez sur nous tous. Ô divines ondées, venez arroser-nous. Vous connaissez ça? Allez-y. Fraîches. Amen. Venez, arrosez, venez arroser-nous. Amen. Oui, nous avons besoin d'être arrosés à chaque instant. C'est une nécessité vitale. Sans être arrosé, la plante meurt. Sans être arrosé par l'onction du Saint-Esprit tous les jours, le chrétien meurt. C'est l'Esprit qui vivifie. Et Jésus a dit que le Saint-Esprit, c'est comme des fleuves d'eau vive qui jaillissent de notre cœur jusqu'en vie éternelle. La deuxième chose que je voudrais souligner avec vous, c'est non seulement la nécessité d'être arrosé, d'être rafraîchi par la grâce de Dieu. Je voudrais vous montrer la façon dont Dieu arrose. Comment Dieu fait-il pour arroser? L'Écriture nous dit qu'il arrose à chaque instant. Ça veut dire que Dieu n'arrête pas. Frères et sœurs, est-ce que ça vous est arrivé? Regardez-moi, mais regardez personne d'autre surtout. Entre vous et moi. Est-ce que ça vous est arrivé de ne pas prier? Oui, c'est arrivé. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, ça nous est arrivé, mais ça n'a jamais arrivé à Dieu qui continue de nous donner. Dieu donne constamment, à tout moment. Et des fois même, on n'a même pas eu le temps encore d'ouvrir la bouche de prier, que la bénédiction de Dieu était là. Il arrose d'une façon glorieuse, non pas en nous envoyant un coup d'arrosage à nous courber par terre et à faire de nous des minables. Non, pas un arrosage en disant, tiens, je les arrose aujourd'hui, ils vont en avoir pour un mois. Non. Il ne nous arrose pas pour qu'on ait pour un mois, pour une semaine, pour un jour, pour une heure. Non. Il nous arrose chaque instant. Seigneur, puisque tu arroses chaque instant, ce matin, malgré les barreaux, tu vas nous arroser du Saint-Esprit. Et si je continue à regarder ce que ma Bible, m'appelle, m'apprend, c'est que cette source qui nous arrose, vous la connaissez? Cette source qui nous arrose. Qui c'est? le Seigneur Jésus. Jésus a dit, si tu bois de l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Alors, frères et sœurs, approchons-nous, et disons-lui, comme Ruben Sayans, ce vieux chant, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure toujours en moi. Car mes frères et sœurs, toute plénitude habite en Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on peut avoir de la belle musique, on peut avoir un beau temple, on peut avoir des beaux orgues, on peut avoir des beaux tableaux, mais sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Il a dit lui-même, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La façon dont Dieu arrose est assez curieuse parce que elle est fidèle et elle est permanente. J'ai noté dans la parole de Dieu que Dieu va employer un mot. Il dit, faites ceci. C'est au sujet des offrandes. Mais c'est la phrase suivante. Faites ceci. Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les petites gouttes du ciel pour vous bénir. Est-ce que c'est écrit comme ça? Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous maudire. Pour vous? Pour vous? Et ce Dieu qui a dit cela, il est là ce matin. Et c'est lui qui veut ouvrir sur ta vie les écluses du ciel. Oui, voilà la façon de Jésus. C'est de nous arroser, de nous remplir régulièrement, abondamment, et de nous dire, n'aie pas peur mon fils, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. La troisième chose que je voudrais regarder avec vous. La première, nous l'avons vue ensemble, le Seigneur dans sa grâce nous arrose par le Saint-Esprit chaque matin. D'accord ? La deuxième chose, nous avons vu la façon. C'est une grâce de plénitude, abondante, qu'il nous donne chaque jour. Regardons la troisième chose, si vous le voulez bien. Si je lis ma Bible, je reçois dans mon cœur une certitude qu'il va m'arroser ce matin. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs qui y croient ?
Amen.
Seigneur, parce que si tu m'arroses, tu arroses ma famille. Tu arroses les païens qui sont autour de moi. Tu arroses mon entourage. Tu arroses mon immeuble. Tu arroses l'entreprise. Et regardez ce que nous dit le Seigneur. Il nous dit, moi, l'Éternel, je veux. Voilà la certitude. Dieu veut ce matin nous arroser. C'est son désir profond. Je veux vous arrosez et je le ferai. Mes frères et sœurs, quand Dieu dit ça, il s'engage. Et je n'oserais pas dire, Seigneur, tu me trompes. Moi, l'Éternel, j'arrose à chaque instant ta vie. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui s'engage. Il dit, moi, je le veux. Et quand Dieu veut quelque chose, il le fait. Tenez. Quand il nous a vus perdus dans le péché, il a dit dans son ciel, je veux que tous les hommes soient sauvés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à notre secours, par le nom de Jésus. Je veux sauver, et par Jésus, il sauve! Il a dit, je vais vous racheter mon peuple. Il l'a dit, et il l'a fait. Je vais vous encourager, mon peuple. Il a dit, et il le fait. Je vais vous fortifier, mon peuple. Il l'a dit, et il l'a fait. Il a toujours fait ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit, il le fait. Et comme il a dit ce matin qu'à chaque instant, il nous arrose, aujourd'hui, ce matin, c'est un instant, il m'arrose.
Amen.
Chaque instant, dans sa grâce, il m'arrose. Mes frères et sœurs, et il peut le faire à chaque instant parce que il n'est pas un faux dieu. Vous savez ce que c'est, les faux dieux? C'est l'image d'un Baal. Vous avez entendu parler de Baal? C'est le dieu des mouches. Un jour, il y a une réunion du peuple d'Israël. Il y a Élie, puis il y a le peuple, avec les faux prophètes. Et il leur dit, écoutez, cessez d'être clochards. Un pas avec Dieu et un pas avec Baal. Si Dieu est Dieu, allez vers Dieu. Si Dieu est Baal, allez vers Baal. Et celui qui répondra par le feu, c'est vraiment Dieu. Allez-y, je vous laisse la priorité, dit Élie. Et Élie s'assoit tranquillement. Et alors tout le monde commence à s'exciter, à crier, à se taper, à se mordre sur. Aujourd'hui, on dirait que les femmes prennent des casseroles. Aucun rapport avec la politique. Et ils font beaucoup de bruit, beaucoup de bruit. Et ils disent, Baal, réponds-nous! Silence. Et Élie dit, criez plus fort, les gars. Il est peut-être en train de se reposer. Ah, les gars, hey, Balaam, réponds-nous! Élie dit, ah non, les gars. Répétez plus fort, plus fort, plus fort. Ah, ils sont partis, les gars, ils sont partis à s'exciter. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Nous n'avons qu'un Dieu. Un Dieu, c'est Baal. Silence. Dieu dit, mais il est peut-être en voyage. Il était en train de se promener. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est quand Élie a fait une simple prière. Seigneur, donne gloire à ton nom. Le feu est descendu. Mes frères et sœurs, c'est l'avantage que nous, en tant que chrétiens qui croyons au Saint-Esprit, nous avons sur les païens qui pensent que, à force d'excitation, ils vont faire venir le Saint-Esprit, mais à force d'excitation, ils vont faire fuir le Saint-Esprit. C'est une colombe. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des colombes, mais c'est une colombe. Et si un vent trop criard, elle ne va pas se poser. C'est la douceur. Et bien, l'Écriture nous montre par là que le désir du Seigneur, c'est que nous soyons remplis, remplis, remplis de la grâce du Saint-Esprit. Je me souviens d'un jeune pasteur, oui, on est des jeunes chrétiens, on est des jeunes pasteurs, qui, un jour, prêchait l'Évangile, c'était un jeudi, je crois, enfin bref, peu importe, hein. C'était une des premières fois qu'il prêchait, avec du dynamisme, avec de l'autorité, avec de la force. Puis il y avait un vieux pasteur à la retraite. Il s'appelait le révérend Charles Spurgeon, grand prédicateur anglais. Et quand le jeune pasteur a su que Charles Spurgeon était là, ah, il a dit, Charles Spurgeon, le ministère que vous avez, ah, qu'est-ce que vous en pensez de ma prédication ? Spurgeon a dit, assieds-toi. Ce que tu as dit, c'est vrai. Ce que tu as affirmé, c'est pas vrai. C'est très vrai. Tout est vrai. Oh, dans ton message, il y avait le tonnerre, il y avait la foudre, mais il n'y avait pas la pluie. Vous avez compris? La pluie, c'est Dieu qui l'envoie. Et je ne peux pas exciter Dieu, mais si je suis couvert par le sang de Jésus, comme le disait tout à l'heure mon frère Christophe, recouvert par sa justice, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et cette présence va attirer l'action du Saint-Esprit sur nous tous et faire de nous ensuite des hommes vainqueurs, puissants, triomphants par la grâce de Dieu Tout-Puissant, mes frères et sœurs. Dieu a dit, je te rachèterai, je veux t'avoir à moi. Et ça lui a coûté très cher à Dieu de nous racheter. Vous savez que les premiers gouttes du rachat de Dieu ont eu lieu dans un jardin à Gethsémané, où Jésus était en train de prier plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Le prix du rachat de notre âme, mes frères et sœurs, a été payé par le sang de Jésus. Et c'est pour ça que nous lui appartenons. Le sang de Jésus nous a rapprochés et a fait de nous des vainqueurs. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a attirés, il nous a sauvés. Et maintenant, il veut, dans sa grâce, continuer à nous bénir et à nous fortifier. J'arrose à chaque instant ta vie. Alors on termine. Frères et sœurs, pour être arrosés, pour savoir où j'en ai besoin. Maintenant, ma question est simple. Qu'est-ce qui vous semble sec ou sèche dans votre vie? En vous parlant, je me parle. Moïse, qu'est-ce qui est desséché en toi? Un jour, un homme s'est présenté devant Jésus avec une main sèche, une main sans vie, une main qui ne sait plus donner, une main qui ne sait plus agir. Est-ce que le Seigneur lui a dit, reste avec ta main sèche? Il est venu à son secours, il l'a arrosé, et les deux mains ont servi le Seigneur. Est-ce qu'il y a dans ta vie des os desséchés? C'est arrivé dans la Bible, devant le prophète. Dieu l'a emmené et lui a dit, regarde! Et le prophète a été saisi. Il a vu l'ancienne armée de son peuple qui était réduite à des squelettes. L'armée de son peuple était non seulement des squelettes, mais des squelettes desséchés. Quelles sont les choses qui sont desséchées en moi? Alors Dieu va dire à son prophète, fils de l'homme, ses os peut-il revivre? Et le prophète n'a pas voulu se mouiller, il dit ça, Seigneur éternel, tu le sais. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Parle à ses os. Parle au vent. Et dis au vent, souffle des quatre vents. Le vent, c'est l'image du Saint-Esprit, nous sommes d'accord. Et quand le Saint-Esprit, quand le vent est arrivé sur ses os desséchés, dispersés, chacun était dans son coin, l'Écriture nous dit que la première chose, ça les a rassemblés les uns près des autres, non pas les diviser, mais les unir. Une union de squelettes. Et lorsque ça a été fait, la chair a poussé. Et lorsque ça a été fait, le souffle est revenu, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Le Dieu d'Ézéchiel est ici. Alors, mes frères et sœurs, tout ce qui est desséché dans votre vie, peut-être c'est un de vos fils, c'est votre mari, c'est votre santé, qu'est-ce qui est desséché et qui vous fait mal ce matin? De venir toute seule ou tout seul au culte? Et si ce matin, on demandait au Seigneur d'arroser ce qui est desséché? Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît. Répands ta grâce sur ce qui est desséché, c'est ça que je veux dire. C'est arrivé du temps de Gédéon. La Bible nous dit que Gédéon vivait dans une période de sécheresse spirituelle. Malheureux, malheureux, malheureux. Et il a eu une vision, une toison de laine. Et la toison de laine, la Bible nous dit, la toison de laine a été desséchée à un certain moment, alors qu'elle était pleine, mais la terre a été inondée. Ce matin, je vous invite à courber vos fronts. Le Seigneur n'est pas simplement celui qui nous visite chaque matin, mais il nous arrose à chaque instant. C'est une nécessité vitale. Deuxièmement, la manière du Seigneur, c'est que nous soyons remplis jusqu'à déborder de la grâce de Dieu. Et la certitude que ça va se produire, Dieu l'a dit, je veux, moi, l'Éternel. Pendant que nous sommes en train de nous recueillir, mes frères et sœurs, mettez devant vos yeux tout ce qui est desséché dans votre vie. La foi, l'amour fraternel, l'argent, le travail, la santé, la famille, le deuil, le divorce, la colère, la vengeance. Et qui voudrait dire ce matin, Seigneur, arrose-moi s'il te plaît. Seigneur, arrose ces os desséchés. Pensez à votre fils, pensez à votre fille, pensez à votre mari, ma sœur, pensez à votre femme. Pensons et bénissons Dieu de ce qu'il est capable d'envoyer son esprit sur les os desséchés.
Amen.